Pierre-Antoine Balu, bonjour.
Bonjour.
On parle beaucoup de smartphones, on parle de big data, on parle de drones. Mais quelles sont les innovations technologiques qui ont le plus d'impact sur la vie quotidienne des gens aujourd'hui en Afrique ?
Alors, des exemples, il y en a plusieurs. Les drones, effectivement, donc, qui sont utilisés aujourd'hui au Rwanda pour livrer des médicaments dans des coins qui sont relativement reculés, de façon à réduire les coûts logistiques et surtout à pouvoir soigner les gens le plus tôt possible.
Sans faire 3 jours de moto pour aller chercher le médicament.
Exactement. Donc ça, c'est un exemple. On a tout ce qui se développe autour, bien sûr, du paiement mobile, qui a eu un succès phénoménal au Kenya avec M-Pesa, avec l'émergence des fintechs.
Alors voilà des mots techniques pour beaucoup de gens qui nous écoutent et pour moi-même. M-Pesa, si j'ai bien compris, c'est une plateforme de paiement mobile, c'est ça ?
Alors, M-Pesa, au départ, c'est un opérateur téléphonique qui, en fait, est parti d'un constat simple. Le niveau de bancarisation au Kenya était extrêmement faible. Les banques classiques ne couvraient que 10% de la population. Et ils se sont lancés via leur réseau téléphonique en disant « Nous, on a accès à une population, on a un nom, une légitimité. On va développer, en fait, un porte-monnaie électronique qui va permettre, finalement, de faire du transfert d'argent du citoyen qui habite, effectivement, à Nairobi, à sa grand-mère qui est au fin fond de la brousse. » Et c'était un succès phénoménal puisque presque 70% des Kenyans ont un compte M-Pesa.
Est-ce que cela se répand en Afrique de l'Ouest ?
Alors, une des problématiques de l'Afrique, comme on le sait, c'est sa fragmentation. Et donc, la duplicabilité des modèles n'est pas, je dirais, immédiate. M-Pesa a très bien marché au Kenya, n'a pas du tout bien marché en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, vous avez les opérateurs télécoms comme Orange, avec Orange Money, ou MTN, qui sont lancés finalement dans une dynamique de développement de solutions mobiles de cette nature. On a des tests assez probants au Sénégal, où vous avez des initiatives portées par la Société Générale avec Manco ou Yup pour bancarisation.
Est-ce que ces nouvelles technologies permettent de réduire les coûts de transfert d'argent entre la diaspora et la famille en Afrique, par exemple ?
Le principe des fintechs, c'est-à-dire finalement ces startups ou en tout cas ces sociétés innovantes qui essayent d'utiliser la technologie, le principe même, c'est finalement de pouvoir baisser les coûts, la tarification, les commissions. Et il est certain que quand vous êtes une banque classique ou un réseau de transfert, vous avez des coûts de structure. Et aujourd'hui, donc les fintechs essayent finalement d'arriver avec des approches beaucoup plus agiles et beaucoup plus légères qui permettent finalement d'avoir un modèle économique plus intéressant, plus attrayant.
Donc les sociétés de transfert d'argent que tout le monde connaît, aujourd'hui leurs jours sont comptés, on va trouver des solutions moins chères pour envoyer l'argent ?
Je pense qu'elles ont les atouts d'avoir effectivement un réseau notamment en Europe, donc avec des correspondants. Ce qu'on va voir émerger de plus en plus par contre, c'est des partenariats entre des fintechs, donc ces nouveaux acteurs un peu agiles, qui sont finalement en train de révolutionner la façon de faire du financement, et les banques classiques ou les opérateurs classiques. Et c'est l'alliance des deux qui certainement effectivement va être une réponse.
Est-ce qu'il y a des innovations technologiques qui s'additionnent les unes les autres ?
Alors, l'exemple qu'on pourrait prendre, c'est effectivement la téléphonie et le développement des panneaux solaires pour pouvoir fournir de l'électricité dans des régions assez isolées. On est sur finalement la mise en place de panneaux solaires avec un paiement qui se fait par mobile. Il y a l'exemple de M-Kopa au Kenya. Encore une fois, le Kenya est quand même, je dirais, souvent en avance pour plusieurs raisons. Effectivement, il y a eu le succès de M-Pesa et puis le gouvernement, le régulateur de la Banque centrale, les autorités télécoms sont quand même très favorables et poussent à l'innovation pour essayer de créer un écosystème, ce qu'on appelle aujourd'hui une Silicon Savannah.
Il n'y a pas l'équivalent en Afrique francophone.
Il y a des tentatives. Je pense que les gouvernements ivoiriens, sénégalais notamment, sont fortement favorables à l'émergence de ces startups, de ces innovations technologiques. Mais le cadre réglementaire, par exemple, au niveau de la zone UEMOA, n'est pas encore complètement stabilisé pour tout ce qui est fintech.
En Afrique, beaucoup de gens ont un téléphone mobile, mais peu de gens ont accès à l'Internet.
C'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on est sur une logique d'innovation par de nouveaux canaux. C'est-à-dire, on n'est pas sur le canal classique avec l'ordinateur, la ligne ADSL pour pouvoir se connecter à Internet. On est sur du smartphone avec une connectivité 3G.
C'est-à-dire que vous pensez que d'ici 2020, beaucoup de gens auront le smartphone avec la 3G ?
Alors, selon nos chiffres, sur les 5 dernières années, on a eu une croissance d'à peu près 344% de l'adoption de smartphones en Afrique. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, ça reste encore un objet de luxe, puisque vous avez aussi des taxes à l'importation qui sont relativement importantes. Néanmoins, en 2020, on prévoit que 6 à 7 Africains sur 10 seraient équipés d'un smartphone.
Alors, toutes ces innovations portées par ces startups, c'est bien, mais est-ce qu'il y a le financement derrière ?
Alors, vous touchez là, effectivement, un des freins majeurs. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups. C'est très bouillonnant, mais pour développer une startup et faire en sorte qu'elle soit pérenne, il y a un enjeu finalement de financement et de pouvoir trouver des capital ventures, des fonds d'investissement, des business angels qui vont vous accompagner sur la durée. En Afrique, sur l'année 2016, il y a à peu près 160 millions d'euros qui ont été investis investit dans les startups. Si je prends l'Inde, qui a une population à peu près similaire au continent africain, avec 1 milliard d'habitants, c'est 4 milliards de dollars qui ont été investis. Donc il y a un différentiel très significatif.
C'est de 1 à plus de 20.
Exactement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des startups africaines qui vont installer des bases à New York, à San Francisco, ou à Paris ou à Londres, pour être au plus proche des sources de financement.
Et vous, en tant que cabinet d'expertise PwC, qu'est-ce que vous conseillez à ces startups, de partir à New York pour trouver les financements ou de rester en Afrique?
On travaille beaucoup sur des logiques de partenariat. Sur la partie financement, il est certain qu'avoir des connexions avec des centres financiers de premier ordre est un atout incontournable.
Pierre-Antoine Balut, merci.